RTL.fr.
18h39, nous retrouvons Marc-Olivier Fogiel sur RTL Soir avec votre deuxième invité, Marco.
Deuxième invité d'RTL Soir, le combat d'une fille pour sa mère atteinte d'Alzheimer. Bonsoir Christelle Bardet.
Bonsoir Marc-Olivier.
Le grand public et les auditeurs d'RTL connaissent surtout votre compagnon, Laurent Gérard, mais ce soir, c'est vous qui êtes dans la lumière pour votre livre, bouleversant et drôle aussi. Quand maman plantait des brosses à dents chez Plon qui sort jeudi, le récit des 14 dernières années de la vie de votre maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. Déjà, le titre, pour commencer, qui dit beaucoup, quand maman plantait des brosses à dents, il dit tout de la manière dont vous avez affronté la maladie. Au milieu des larmes, il y avait aussi de la poésie et même des rires.
Absolument. Ce livre, en fait, est un témoignage. Mmh. Le témoignage de l'histoire d'amour que j'ai vécue avec elle.
Très fort.
Très, très fort, absolument. Cet accompagnement a donc duré 14 ans. Mmh. Et les brosses à dents, en fait, symbolisent bien vraiment ce qu'elle a pu faire pendant cette maladie. Parce que c'est une activité quotidienne qu'elle réalisait. Alors là, c'était au début de sa maladie. Mmh. Elle s'occupait de son jardin de brosses à dents dans des balconnières qu'elle avait sur la petite terrasse de son appartement.
Et vous, puisque c'est aussi la façon dont vous avez vécu tout ça, le fait de voir ces brosses à dents plantées à la place des bouts de bois, ça vous faisait plus sourire que ça vous attristait ?
Alors au départ, ça ne m'a pas fait sourire du tout, parce que j'étais plutôt perplexe. Donc au début, on a une réaction plutôt naturelle de rejet, où on explique à la personne que c'est pas possible, une brosse à dents c'est pas fait pour ça, un jardin ça ne ressemble pas à ça. On est au départ dans cette phase de rejet, et puis ensuite d'acceptation, sentant le bien-être qu'elle y trouvait vraiment. Et chaque jour, je prenais beaucoup de plaisir à la voir avec une spatule en bois à la main, et dans l'autre main un pot d'eau, et elle jardinait, elle parlait à ses brosses à dents comme elle le faisait jadis à ses plantes vertes.
On va raconter comment votre mère est tombée dans la maladie d'Alzheimer, comment le diagnostic a été posé. Vous avez grandi dans une famille unie, vos parents Mireille et André ont eu deux enfants, vous et votre frère. Votre maman était devenue assistante maternelle, elle avait une vie saine, sportive, elle adorait la nature. Et les premiers signes interviennent à la mort de votre papa d'un cancer en 2002. Là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui bascule.
En fait, on est parti à la suite du décès de mon père. On a pris quelques jours de repos. On est parti à Marrakech, profiter du soleil et de ce merveilleux pays. Et en fait, pendant ce séjour, j'ai détecté et assisté à des scènes absolument déroutantes. Mmh. Elle se levait pour faire son lit à 4 heures du matin. Et chaque matin, en quittant l'hôtel, elle me posait cette sempiternelle question : qu'est-ce que je fais de la clé ?
La clé de la chambre.
Ouais. Et puis, elle s'est perdue. Elle était incapable de convertir l'argent. Enfin, on voyait qu'elle était vraiment dans une perplexité permanente.
Vous pressentiez, elle était toute jeune, elle avait 56 ans.
56
vous
ans.
Vous pressentiez que c'était la maladie d'Alzheimer ou alors
pas nécessairement celle-ci, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On voyait qu'il y avait, ça percutait plus.
Vous écrivez, je me suis souvent demandé ce qu'il pouvait se passer dans sa tête. J'imaginais un enchevêtrement de fils emmêlés, créant des courts-circuits, des étincelles, des paillettes, des nuages. Cette question, elle vous hantait évidemment.
Oui, parce qu'en plus, on a l'angoisse de se demander si elle a vraiment conscience de son état et si elle souffre. Mmh. La question de la souffrance, elle est primordiale, parce que la souffrance, elle a plusieurs niveaux. Il y a celle du malade, évidemment, qui se rend compte qu'il y a des manques, qui est quand même dans cette anxiété. Et la nôtre, l'angoisse de savoir ce qui va se passer, parce que quand on a un diagnostic comme celui-ci, c'est un tsunami émotionnel qui arrive. Toute la projection qu'on se faisait d'un futur est pulvérisée.
Et puis le fait de devenir la mère de sa propre mère, vous l'écrivez, une fille qui devient mère de sa propre mère peut se sentir sacrifiée. Un fils peut souffrir de voir sa maman se dégrader et préférer s'éloigner. Vous êtes sentie seule, vous ?
Oui, je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule aussi parce que le système fait qu'il n'y a aucun accompagnement pour ses aidants.
C'est ça.
Moi, j'ai eu de la chance malgré tout, c'est qu'elle m'a toujours fait confiance et qu'elle a toujours été adorable, gentille, douce. Et malgré le chagrin que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui, j'ai de magnifiques souvenirs.
Et pourtant, vous racontez des choses difficiles, évidemment, dans le livre. Il y a presque aussi, peut-être pas une honte, le mot est fort, mais disons un tabou, puisque quand Laurent arrive dans votre vie en 2007, vous ne lui parlez pas tout de suite de la maladie de votre mère.
J'avais pas envie. Oui, une honte, non, pas une honte, mais...
Une difficulté, il y a une difficulté à mettre les mots. Là, vous les écrivez, ils sont pesés, ils sont beaux, mais il y a eu du temps pour les mettre, les mots.
Oui, il y a eu du temps pour les mettre. Il y a eu du temps et une confiance. mettre des mots dessus, c'est difficile de raconter cette histoire. Je crois que personne ne le savait, j'en avais parlé à personne.
Alors vous racontez évidemment le long parcours avec elle, le moment où elle n'a pas pu rester dans son appartement, qui a failli prendre feu, il fallait faire quelque chose. D'ailleurs j'ai découvert, vous choisissez une famille d'accueil, d'abord je ne savais pas que ça existait, mais c'était trop compliqué pour cette famille d'accueil de s'en occuper parce que son état était suffisamment dégradé. Finalement il a fallu la placer dans une institution, et là c'est très beau ce que vous écrivez, la décision de placer une personne est l'une des plus douloureuses à prendre, on a la sensation de refuser un combat, de baisser les bras, de perdre espoir. Le placement en institution symbolise l'échec face à la maladie.
Oui, on a une énorme culpabilité sur les épaules. Énorme, parce qu'on a le sentiment d'abandon. Et quelque part, on place quelqu'un. On lui dit, je t'enlève de chez toi, je ne te prends pas chez moi et je te place ailleurs. Donc, et on a cette pression sociale, cette pression familiale qui est absolument énorme. Et on a un déchaînement de jugements et de conseils, de pseudo-conseils par des gens qui n'y connaissent rien et qui n'ont jamais traversé cette situation, qui sont absolument épouvantables.
Vous allez devoir la placer sous tutelle, elle va vous raconter les procédures, vous dénoncer un système hypocrite, aucun accompagnement, un dossier à remplir tous les ans, qui ne sera même pas lu, aucun rendez-vous. C'est ça aussi l'enfer des aidants.
C'est l'enfer des aidants, mais c'est aussi... nous sommes les victimes du système. Et un aidant, il a besoin de solutions rapides au quotidien et de souffler. L'aidant s'épuise très, très facilement. Il n'est pas rare que l'aidant parte avant la personne malade.
Vous lui avez offert son dernier bain de mer. C'est un moment fort du livre. Vous racontez comment vous l'avez amené en vacances à Saint-Tropez. Comment vous lui avez offert ce dernier bain de mer. Vous direz que ça lui a fait du bien. Et vous aussi, de finalement voir qu'elle pouvait aussi être bien.
En fait, c'était un pari un peu fou de se dire « Allez, on la ramène à la mer ». Elle faisait que 30 kilos, elle était complètement grabataire, donc il a fallu quand même organiser tout ça. Et je vous cache pas que quand je suis partie, que j'ai pris l'autoroute et que j'ai vu Lyon s'éloigner dans mon rétroviseur, je me suis vraiment demandé ce qui m'était passé par la tête. J'ai imaginé toutes les catastrophes qu'on allait vivre. Et finalement, de la même manière, avec des choses très simples et un peu d'organisation, ça a été une expérience de vie extraordinaire et elle nous a apporté beaucoup.
Pourtant, au bout de 14 ans, alors que vous êtes en vacances en Grèce, elle s'éteint, sans prévenir, il n'y a pas eu de signe, elle est partie comme ça, rien ne laissait présager qu'elle partirait ce jour-là. Vous étiez bloqué sur l'île, elle a choisi de partir. Vous diriez que ce n'est pas un hasard ?
Non, ce n'est pas un hasard, c'est sa dernière farce, son dernier pied de nez. Moi, qui aime en plus être dans la maîtrise permanente, je suis restée coincée 48 heures dans cette île de fête où il y avait beaucoup de paillettes et de joie. Je pense qu'elle a choisi, de me faire ce dernier pied de nez. Mais aujourd'hui, le message que je veux faire passer aux aidants, vraiment, c'est que des moments heureux peuvent exister.
C'est ça, c'est vraiment ce qu'on ressort du livre, c'est qu'il faut les prendre ces moments.
Il faut les prendre, il faut déculpabiliser, il n'y a aucune prise en charge idéale. Et il faut aujourd'hui donner les moyens aux aidants de souffler, de s'aider, mais aussi de se déculpabiliser, de s'enlever ce poids. De l'accompagnement et du sens du devoir absolu pour ne pas s'épuiser.
Quand maman plantait des brosses à dents, Christelle Bardet chez Plon, ça sort jeudi. Merci Christelle.
Merci à vous Marc-Olivier. RTL Soir, 18h47.
Allez, à suivre les essentiels de l'info d'RTL Soir, la météo, RTL Monde et le journal de 19h avec le pape, à l'instant qui reconnaît que des prêtres ont agressé sexuellement des bonnes sœurs.
RTL Soir.